C'est que l'épisode spécial Nordsec. Je suis avec David. Comment vas-tu?
Très bien, et toi?
Très bien aussi. Tu as présenté quelque chose qui, pour moi, me fascine énormément, c'est-à-dire un forum ou en tout cas un archive dans lequel on peut avoir les discussions entre les ransomers et les ransomnés et savoir comment ça se passe. Et tu as fait une analyse de ça justement pour en sortir des informations qui tu m'as partagées, que j'ai trouvé très intéressantes, mais que j'aimerais qu'on discute de ça. Je vais te laisser commencer. Présenter l'état de ta recherche puis un peu les grandes lignes de qu'est-ce que c'est.
Oui, ben en fait, là, tout le monde connaît maintenant bien le problème des ransomware. Même notre gouvernement canadien nous dit que c'est probablement la plus grande menace avec nos infrastructures critiques au pays. Puis je pense qu'on peut facilement le croire en ce moment. Et les ransomware, en fait, les groupes de ransomware, on le sait, vont aujourd'hui avoir plusieurs types d'attaques. Donc oui, ils vont encrypter nos données, mais ils vont aussi les exfiltrer. Et même maintenant, en fait, c'est rendu ce qu'on appelle la triple extorsion, où même ils vont dire, ben, si tu ne me payes pas, quand tu vas avoir restauré tes backups, je vais aller te réattaquer une deuxième fois, ou je vais te faire du DDoS, ou je vais... Donc, pas te laisser tranquille tant que tu ne m'auras pas payé. Et ça amène donc des négociations entre les groupes de ransomware et leurs victimes. Et il y a un groupe de chercheurs qui a décidé en fait de collecter ces conversations-là entre les groupes de ransomware et leurs victimes. Donc, j'ai vraiment aucun crédit. Moi, j'ai vraiment juste appuyé sur « download » sur leur archive. Mais c'est quelque chose qui est publiquement accessible. Donc, n'importe qui peut aller en ligne et son vendredi soir, quand il s'ennuie, aller lire des chats qui sont vraiment passionnants entre des victimes et des agresseurs.
Oui, ça c'est une chose. Je trouve ça très drôle, justement. Mais, ton humour est excellent. L'intérêt, puis c'est là où toi, tu as ajouté une valeur, tu as mis une valeur ajoutée à ça, et pas d'avoir collecté, mais des avoir analysé, parce que c'est intéressant de voir justement cet état de négociation. Donc, que ça permet de voir les stratégies des attaquants. Et ça permet de voir aussi les stratégies des victimes, de comment ils essaient de s'en sortir, des choses comme ça. Mais j'aime ça que, justement, tu abordes ça un peu plus dans les détails.
Ben, il y a vraiment beaucoup de choses, là. Donc déjà, moi, la première chose qui m'a frappé, c'est le fait que les groupes de ransomware vont faire de la recherche sur leurs victimes. Donc, ils vont aller voir est-ce que la victime a une assurance. Ça tombe bien, ils ont tous leurs documents financiers bien souvent. Donc, ils peuvent voir c'est quoi le montant de l'assurance pour cyber. Ils sont capables de voir les gens ont combien d'argent dans leur compte de banque. Donc, quand ils vont demander une rançon, c'est un peu dur de dire, écoutez, on n'a pas les moyens de se le permettre. Quand ils peuvent dire, ben écoute, à la fin du dernier quarter, tu avais apparemment 460 millions dans ton compte de banque. Ce serait bien, tu sais, que tu puisses nous payer.
Et nous partager cet argent.
Exactement. Et si tu as un assureur, ben là, c'est le pire parce qu'ils vont te dire, écoute, toi, ça ne te coûtera absolument rien. Fais juste, tu sais, dire à ton assureur de nous payer. Donc, on voit qu'ils collectent, puis tu sais, c'est quand même des gens qui ont une certaine structure pour essayer de savoir, donc, c'est quoi les capacités de payer des groupes. Et malgré ça, on voit qu'ils sont quand même plus dans une mentalité là, de un peu vendeur de voitures usagées, où leur but, c'est de vendre le plus de voitures. Eux, le but, c'est de collecter le plus de rançons. Puis même s'ils vous disent, écoute, moi, je veux que tu me payes 1 million, si tu leur dis le moindrement, ben écoute, si tu veux vraiment ton meilleur prix, ils vont te revenir, puis de ce qu'on a vu, rapidement, ils vont te dire, OK, 750 000. Tu leur dis, ouais, mais 750 000 quand même, sont, OK, regarde, 500 000. Donc, ils sont très négociables et ils ont l'air de vouloir, en fait, c'est peut-être un 20 % du prix demandé au départ. Et la moyenne était autour de 50 %. Donc, entre le prix demandé et le prix payé, on est à peu près à 50 %. Donc, ils sont prêts quand même à gérer. Donc, première leçon, ne jamais accepter la première offre. Toujours essayer de négocier, là, évidemment. Et une autre chose qui ressortait beaucoup aussi, c'est les menaces, en fait. Donc, si jamais on ne paye pas sa rançon, on voit que les groupes vont devenir très insistants, très menaçants. Et on va voir des attaques du style, ben si tu me dis que tu as des backups et que tu n'as pas besoin de payer, la minute que tu vas avoir restauré tes backups, je vais rentrer dans tes systèmes à nouveau. Puis je vais toutes les hypothéquer. Donc, c'est les menaces de dire, je vais te lancer des attaques DDoS, je vais m'attaquer à toi de manière constante, je vais aller voir tous tes clients pour lesquels j'ai des informations confidentielles, puis je vais leur demander s'ils sont heureux que je mette ça sur Internet. Donc, quelque part, la question, ça devient, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas payer finalement?
Et de ces menaces-là, est-ce que tu as vu dans les conversations une matérialisation de ces menaces-là où les gens, les victimes vont tout de suite obtempérer ou...
On ne voit pas, souvent les gens vont être plus, donc dire, ben, regarde-moi, fais ce que tu veux, de toute façon, ça ne me touche pas. Et on peut leur donner raison jusqu'à un certain point, dans le sens où même s'il y a plein de compagnies qui ont des données qui ont coulé et qui sont accessibles en ligne, je ne sais pas, tu en as téléchargé combien dans les dernières années, mais même si ces données-là sont disponibles en ligne, c'est comme si personne allait comme enquêter, si on veut. On n'en entend plus jamais parler, même si elles sont officiellement accessibles. Et on se dirait qu'il y a sûrement des journalistes d'enquête qui rêveraient d'avoir accès à tous les secrets là, de multinationales qui doivent faire une chose ou deux de plus ou moins catholiques.
Oui, puis c'est moi, j'en download pas parce que. Puis tu m'as expliqué que c'était excessivement compliqué déjà, de downloader ça. Je tomberais pas par hasard sur un dossier comme ça. J'imagine que ça va être stocké dans des sites ou des lieux qui sont pas nécessairement recommandables, j'imagine.
Oui, puis toutes les archives qu'on télécharge des groupes de ransomware, sans grande surprise, sont infectées eux-mêmes avec du malware. Donc, il faut toujours être prudent, en fait, là, quand on s'attaque à ça. Et donc, ils font donc beaucoup de menaces. Et même, il y a un cas où ils disaient à leur victime, « Écoute, je le sais que vous avez fait du insider trading en bon français, et si vous ne nous payez pas la rançon, ben on va avertir les autorités compétentes que vous êtes en train, en fait, de vendre toutes vos actions pendant que vous cachez le fait que vous avez été victime d'une cyberattaque. » Donc, on voit qu'ils sont beaucoup dans les menaces.
Ils sont très informés aussi.
Oui, tout à fait. Et une partie qui est toujours drôle, je pense qu'elle a bien fait sourire les gens, c'est le fait que les groupes de ransomware promettent de faire un rapport sur les vulnérabilités, donc une espèce de vulnerability assessment de leurs victimes pour leur permettre de ne pas se faire attaquer à nouveau dans le futur. Maintenant, de manière un peu comique, ils envoyaient à tous leurs clients le même report de sur les vulnérabilités. Maintenant, est-ce que toutes les compagnies avaient les mêmes failles? Probablement. Donc, évidemment, il ne faut pas cliquer sur des liens qu'on reçoit par courriel, un grand classique. Activer le 2FA. Mais quand même, ils disent donc, écoutez, si vous nous payez, non seulement on vous redonne vos données, mais en plus, on va tout effacer de nos serveurs. Et on vous envoie un screenshot où vous voyez la commande « delete ». On n'a pas de backup, évidemment. Et on vous envoie ce rapport là, pour étudier vos vulnérabilités.
Mais ces informations-là, puis dans la conversation, tu as dû en voir des résultats de ça. Est-ce que ça a l'air crédible, ce qu'ils font? Ou c'est juste un peu de la poudre aux yeux parce qu'ils savent que les gens sont déjà un peu sont faits avoir et ils ne sont pas plus informés que ça?
C'est vraiment, pour moi, c'est du boilerplate là, de... activer le 2FA, de mettre à jour son OS, d'avoir un antivirus, de ne pas cliquer sur des liens qui viennent par courriel, de former ses employés sur les meilleures pratiques pour une meilleure cyberhygiène. Si on est vraiment dans le boilerplate, là, si on ne savait pas ça avant de se faire pirater, je veux dire...
ça explique pourquoi on s'est fait pirater. Là.
Probablement. Et peut-être il y a toujours une petite pièce d'or, en fait, dans chaque présentation. Et dans ce cas-ci, du moins du côté des attaquants, une des choses qui m'a fait sourire, c'est un groupe de ransomware qui écrivait à une victime en lui disant, écoutez, on a remarqué que vous aviez un département ou une filiale en Arménie. Maintenant, ceci fait partie de la zone d'influence russe et nous, on n'opère pas du tout donc dans ces régions-là. Donc, on est absolument désolé. Voici l'outil pour décrypter vos données. Si vous avez des problèmes, vous êtes prioritaire pour nous. On s'excuse, pardonnez-nous. Et là, ce que je me demandais, en fait, c'est de savoir, est-ce qu'on n'a pas trouvé un loophole pour se sortir de toutes les attaques de ransomware où on a juste à se créer une branche, une filiale, quelque chose dans un pays d'Europe de l'Est et tout d'un coup, on devient finalement immunisé contre les attaques. Je serais intéressé de voir si ça fonctionne à plus grande échelle.
Ben c'est une belle chose. C'est pas sans rappeler le fait d'avoir un clavier russe, justement, était une façon mécanique, là, dans ce cas-ci, qui était détecté automatiquement et qui faisait que l'attaque ne se produisait pas parce qu'on était considéré comme un allié. Mais ce serait intéressant de voir ce genre de choses-là. Puis probablement des études secondaires sur les différentes conversations que tu vas probablement poursuivre, de voir s'il y a d'autres occurrences de l'apparence d'une filiale dans un pays dit protégé.
Oui, je trouvais ça très cute, en fait. Et ce sera à essayer. Donc, les auditeurs pourront nous envoyer leur certificat d'incorporation de leur filiale et nous dire, écoutez, 560 jours sans attaque de ransomware, tous mes ports sont ouverts, je clique sur tous les liens et regardez, là, on a la preuve.
YOLO. YOLO, j'ai une filiale en Arménie. YOLO.
Exact. Exactement. Et tu vois, du côté des victimes, les victimes essayaient toujours de se la jouer très petit. Là. Écoutez, moi, là, je veux dire, je suis un centre d'hébergement pour sans-abri. On n'a pas d'argent. Et même ce centre d'hébergement pour sans-abri qui disait qu'ils n'avaient pas d'argent, ils ont finalement accepté de verser une rançon de 125 000 $ pour un organisme communautaire sans moyens. J'ai quand même trouvé que, écoute, ils avaient quand même une capacité assez importante à lever de l'argent. Mais sinon, ça fait toujours un peu sourire en coin parce qu'on a plusieurs victimes qui disent en fait que leur boss leur a dit de gérer l'attaque finalement de ransomware. Eux autres, c'est juste un technicien TI. Puis là, son boss lui dit qu'il fallait qu'il paye de sa poche lui-même la rançon. Et là, il dit, écoutez, là, j'ai juste 10 000 $ sur mes cartes de crédit. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? T'sais, je ne peux pas vous aider plus que ça. Donc, les victimes essayent de se la jouer comme on est petit, frêle et t'sais, on ne peut pas vous payer. Sinon, ils essayent aussi beaucoup de perdre du temps. Donc, on a l'impression, en fait, que les compagnies essayent de comprendre qu'est-ce qu'on nous a volé, quel système a été exploité, ça nous prendrait combien de temps t'sais, pour redevenir opérationnel sans les payer. Donc, ils essayent de staller, en bon français, les groupes de ransomware pour pas qu'ils annoncent qu'ils ont été attaqués, juste pour acheter du temps, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe derrière. Et peut-être le plus drôle, c'est justement les façons dont les victimes essayent de créer un lien avec leur agresseur. Je sais pas si c'est le syndrome de Stockholm ici, mais tu sais, si je peux te lire peut-être une petite ligne là, juste qui est sympathique, là, mais une victime qui dit, écoute, some of the others seem to have abandoned all hope. We have lost a lot of customers in the last year. We've had to downsize. We have to fire colleagues. We own unsellable buildings. Mon Dieu, on a même des buildings qui ne se vendent pas. People are delusioned, but I go on pushing and fighting for you. Any help from you is appreciated. C'est que tu vois qu'il essaye de
chercher. C'est fou, mais tu sais, c'est ça un peu comme ce qu'on voit un peu dans les films aussi, cette espèce de façon un peu hollywoodienne de négocier avec un agresseur là, qui est très qui transcende cette façon-là d'exécuter. Là.
Exact. Donc ils essayent de créer un lien. Où ils vont dire, tu sais, on a eu des batailles internes, tout le monde se crie à la tête, les gens ne savent plus quoi faire. Ou encore, tu sais, écoute, là, faut que j'aille chercher des bitcoins, mais faut vraiment que j'aille dans une partie de la ville très dangereuse. Mais tu sais, je vais le faire pour toi parce que tu sais, je veux vraiment qu'on puisse régler notre problème. Donc, tu sais, toujours un peu surprenant, en fait, là, de voir ce rapport-là.
Parce que ça donne des résultats, parce que ça c'est un volet là. Tu parlais de la menace, puis si tu dis ça me fonctionne plus ou moins, le fait de jouer l'ultra victime, est-ce que ça vient modifier la stratégie de négociation ou juste ignorer puis ils continuent
puis eux vraiment c'est le modèle du vendeur de voitures usagées qui tout ce qu'il veut c'est un prix. Lui il ça lui dérange pas l'argent vient de où, pourquoi, comment. Ce qu'il veut savoir, c'est cette voiture-là, combien il faut qu'il te la vende pour que tu repartes avec. Et dans le cas des ransomware, c'est un peu la même chose où ils disent, regarde, bon, t'es petit, tu vas être mon ami, ta vie est difficile, fantastique, mais maintenant, combien tu m'envoies pour qu'on règle le problème? Et ça revient toujours donc à l'argent et au paiement. Et même ceux qui essayent de minimiser les attaques puis de dire, regarde-moi, de toute façon, j'ai des backups, t'as rien pris qui était si dommageable pour moi. Et ils essayent de négocier un peu en disant, regarde-moi, je vais peut-être te payer parce que ça va me sauver un peu de temps, mais dans les faits, j'ai pas besoin de te payer. Et c'est ça, finalement, qui amenait énormément de menaces et d'agressivité chez les groupes de ransomware. Tant que tout le monde s'entend puis va dans la même direction, mais si on donne, et un peu comme un vendeur de voiture, si on dit au vendeur, regarde, j'achèterai pas de voiture aujourd'hui, c'est là où l'agressivité rentre, puis c'est comme, quoi, t'as pas besoin de voiture, pourquoi tu irais prendre une autre voiture ailleurs, tu penses que ça va être mieux là-bas, et c'est là où les menaces finalement arrivaient en fait, et se concrétisaient là, contre les victimes. Et peut-être une dernière chose que je trouvais assez intéressante, c'est ceux qui, peut-être maladroitement, essayaient de négocier pour un fichier ou deux en disant « Si, mettons, je te demandais de me décrypter juste cette base de données-ci, ce serait combien? » Donc, toujours une mauvaise idée de dire aux attaquants quelles sont nos données les plus critiques et les plus importantes, évidemment. Mais on voit que les gens essayent de négocier en se disant « Ah, peut-être que si je lui demande de juste me décrypter cette image VMware, peut-être que ça va passer. » Et malheureusement pour eux, non, pas du tout.
L'argent est toujours l'objectif premier de ce qui est recherché là-dedans. Puis là, au-delà des menaces, puis au-delà de l'agressivité, du fait que quand tu tannes un peu le dit attaquant, j'imagine que tu as téléchargé certaines de ces choses-là. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas outillé. Puis, mais tu parlais tantôt de choses comme ça. C'est quoi le contenu réel de ces choses-là? Parce que, tu sais, on entend les menaces, ça fait du bruit parce qu'il y a eu des choses, mais il n'y a pas de conséquences réelles. Donc, en même temps, au-delà des victimes qui payent des rançons, publiquement, on a les consommateurs continuent à aller sur les mêmes compagnies. Il n'y a pas eu de conséquences, contrairement à ce qui est publié sur LinkedIn. Ils disent, je pense que c'est 60% des PME qui sont attaqués vont mourir dans la prochaine année. C'est complètement faux. Là. C'est une fausse statistique. La réelle, c'est que c'est très rare que les compagnies vont faire faillite. Donc, le contenu est dans le fond, peut-être sans valeur.
Ben, c'est souvent, en fait, on va voir, ça va être des vieux backups. En fait, ça arrive quand même régulièrement. Donc, quand ils disent qu'ils ont piraté une compagnie, en fait, ils ont trouvé peut-être un backup sur un bucket à AWS ou peu importe ailleurs. Puis, on retrouve l'ordinateur de Gisèle là, qui travaille à la comptabilité. Et on sait que c'est l'ordinateur de Gisèle parce que dans le C Drive, il y a un user qui s'appelle Gisèle. Et je me sens toujours mal là, pour cette personne-là. Mais bien souvent, en fait, les informations juteuses, si on peut dire, sont pas nécessairement faciles à trouver. Il y avait quelques années, il y avait eu le Blue Leak, donc des pirates qui s'attaquaient à des services de police et ils avaient publié quelque chose comme 250 gigs de documents. Mais je veux dire, à part des manuels de formation, des présentations sur les statistiques, j'avais passé beaucoup d'heures à essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Mais je ne dois pas dire que j'ai trouvé des preuves que les extraterrestres existent, que la police...
Je suis déçu. Moi, je vais avoir des preuves.
Que la police fait du profilage racial activement, que tout ce qu'on pourrait s'attendre à des camouflages, des informations secrètes, bien souvent, en fait, ne sont pas nécessairement évidentes, ces informations-là. Et sont peut-être là, justement, quand on a 500 gigs, c'est pas vrai que j'ai, par exemple, ouvert tous les PDF pour passer au travers. Mais quand on se promène dans les répertoires qu'on essaye de voir, il y avait un groupe que j'avais vu au Québec. Puis finalement, ce qu'il y avait de plus juteux, c'était la liste des gens qu'ils avaient invités à la Coupe Rogers en 2012. Puis il n'y avait pas de nom très inquiétant ou de beaucoup de cas de corruption à sortir dans tout ça. Là.
Mais puis ça, c'est une hypothèse. Je ne sais pas si tu as la réponse. C'est-tu parce qu'ils le diffusent pas l'information juteuse ou juste il y en a littéralement probablement pas d'information si juteuse que ça? Là,
très bonne question. Ben, on aime penser que toutes les multinationales abusent de nos droits et ont des choses à se cacher. Peut-être est-ce le cas, peut-être n'est-ce pas le cas. Mais je suis toujours surpris, en fait, au nombre de compagnies qui se font pirater, au nombre de données qui sont coulées en ligne, de ne pas voir des journalistes d'enquête, en fait, qui sont là-dedans à journée longue en essayant de trouver le prochain scandale. Et si on ne le voit pas, soit que les journalistes n'essaient pas, ou c'est qu'il n'y a pas d'informations juteuses. Et finalement, quel est le dommage réel qui est fait par ces fuites-là, de manière temporaire, oui. Mais on l'oublie, mais par exemple, Home Depot, qui avait vu 40 millions de cartes de crédit se faire dérober. Dernière nouvelle, les stationnements chez Home Depot sont pleins et les gens achètent des 2x4 avec leur carte de crédit chez Home Depot.
Oui, il y a comme une espèce d'indifférence généralisée. Ça, d'un point de vue cyber, moi, c'est un problème, cette indifférence-là, parce que même si on ne peut même pas utiliser le fait « Ouais, tu vas t'attaquer », ouais, c'est pas grave. Il n'y a pas de réelles conséquences à cette négligence-là de ces informations-là, puisqu'il n'y a pas de suite. Au pire, il va y avoir une pénalité réglementaire de type RGPD ou autre, ou la SEC aux États-Unis. Il y a des choses, mais au-delà de ça, au recours collectif, mais il n'y a rien d'autre d'action concrète qui pourrait inciter. Puis là, tu confirmes encore d'autant plus le fait que finalement, il n'y a pas tant d'informations. Puis c'est peut-être aussi dans l'imaginaire public et des gens cyber comme moi, de dire il y a plein de secrets partout, puis dans les faits, c'est juste des documents en plate. Tu parlais de l'ordinateur de Gisèle. Ben, c'est peut-être juste ça, des Word fastidieux, plates, avec aucun contenu juteux. Puis la réalité, c'est qu'il n'y en a pas de juteux.
On l'a vu il y a plusieurs années avec la fuite de Sony, par exemple. Là, on avait vu dans les courriels du CEO combien est-ce que les stars étaient payées, puis ça avait amené tout le débat à savoir est-ce qu'on paye les vedettes de films féminines moins que les vedettes de films masculines. Et de mémoire, c'est probablement le plus gros scandale qu'on a eu. Et là, on parlait de c'est donc bien terrible que l'actrice soit payée 10 millions alors que son co-listier est payé 20 millions. Oui, c'est vraiment abject. Mais en même temps, tu sais, on n'est pas en train de déterrer une attaque contre les droits de l'homme non plus. Je pense que tu sais, tout le monde gagne des millions là-dedans et tu sais, on va essayer de rétablir l'égalité, oui, mais on reste dans un problème de first world problem, comme on dit. Là.
Oui, de façon massive, là, c'est pas quelque chose de très grave. De ces recherches, de ces lectures-là, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont ressortis, qui sont intéressants, qui sont juteuses, peut-être plus juteuses que ce que tu as pu lire dans les ligues?
Moi, je pense que c'est hyper intéressant que cette archive-là, c'est sur ransomware.live. On les remercie d'ailleurs donc d'avoir collecté tout ça. Et je trouve que c'est vraiment très instructif dans le sens où si ma compagnie se faisait attaquer par un groupe de ransomware, je pense que la première chose que j'irais faire, ce serait d'aller lire donc ces chats-là pour voir un peu à quoi m'attendre, en fait. Et on voyait aussi, puis c'est peut-être une étude, en fait, dont on parle peu beaucoup, c'est le rôle des négociateurs. On sait que les compagnies d'assurance vont souvent, en fait, demander qu'on fasse appel à des compagnies professionnelles pour négocier finalement la rançon. On voit qu'il y a une certaine relation de respect aussi où il n'y a pas tant de compagnies qui négocient des rançons et il n'y a pas tant de groupes de ransomware parce que même s'ils changent de nom, ça reste toujours les mêmes acteurs derrière. Donc, tu vois qu'il y a une espèce d'industrie peut-être qui se crée et je pense que ça va être intéressant en fait à explorer un peu plus. Voir justement les relations que ces gens-là vont tisser. Est-ce que ça aide? Est-ce que ça nuit? On n'a pas tellement poussé, mais ça aurait été intéressant de voir un peu plus. Est-ce que l'emploi d'un négociateur, par exemple, fait vraiment une différence? Ou est-ce que, c'est encore une autre facture qu'on rajoute sur la pile d'incident response? Mais je pense que ça serait assez intéressant. Puis d'aller parler avec ces gens-là, j'ai vu peu d'entrevues, d'études ou de de recherche là-dessus. Puis moi, c'est quelque chose, en fait, qui m'a allumé, en fait, en lisant ces chats-là, c'est de se demander, OK, mais allons voir ces gens-là. Et ça viendra peut-être là, dans les prochains mois pour mon triomphe à DEFCON dans quelques années, possiblement. Ce sera à suivre.
Oui, mais c'est intéressant. Puis j'aimerais ça souligner aussi le fait que la recherche que tu fais, puis donc une recherche académique, est importante au bénéfice de toutes. Parce que, tu sais, je veux dire, une entreprise privée n'aura pas le temps d'aller lire ça. On ne se le cachera pas. Et cette recherche-là, faite par un universitaire, est très importante parce que, justement, elle amène un éclairage nouveau. Ce que tu as venu partager au NoirSec aussi, c'est une très bonne chose, mais c'est essentiel qu'on mette un effort là-dessus pour, justement, nous outiller comme défenseurs d'avoir ce regard-là sur comment les choses se passent.
Oui, j'aurais juste aimé qu'il ne m'ait pas mis tout de suite après H.D. Moore, mais ça, écoute, on prend la plage horaire qu'on nous donne et on vit avec, comme on dit. Mais c'était comme, tu vois, c'était comme, bon, vous avez été épaté, maintenant voici David et on lui souhaite bonne chance. Mais je pense que la conférence, encore une fois, a montré toute sa pertinence. Puis justement, ce mix-là entre justement, tu sais, je pense que beaucoup des gens qui sont à la conférence vont avoir à gérer une attaque de ransomware, leur compagnie va être victime d'eux. Puis, tu sais, déjà juste de savoir, j'ai eu plein de gens qui sont venus me parler. Par la suite, me dire, ah, je ne savais pas que ça existait, mais tu sais, c'est vraiment, tu sais, déjà juste ça, je pense que même enlève toutes les analyses, juste déjà de savoir, OK, si jamais ça nous arrive, on peut déjà apprendre un peu des expériences. Je pense que c'est quand même vraiment une source intéressante, là.
Tout à fait. Puis je suis un des premiers à consommer des recherches en cyber parce que ça alimente ma gestion d'incidents, ça alimente toute cette réflexion-là. Et donc, je suis capable de mieux guider ces activités-là juste parce que ces recherches-là existent. Donc, je suis capable d'anticiper puis pas de je peux perdre moins de temps à la recherche. Puis dans la même lignée que la recherche que GoSecure avait faite justement avec leur chose RDP,
ouais,
qui est très intéressante. Puis là, je lève aussi mon chapeau à de la recherche privée parce que c'est plutôt rare. Mais c'est important parce que ça vient alimenter la réflexion des professionnels dans le milieu et ça nous outille vraiment mieux pour affronter ça. Puis dans le fond, là, puis moi, je viens d'apprendre live que ça existait, ce genre de forum-là. J'adore ça, là, cette idée-là.
Et là, il faudrait que j'aille à Secure pour pouvoir présenter la suite de ces recherches.
Parce que là, il faut que tu continues tes recherches puis tu viens de présenter justement la suite. C'est quoi l'élément? Est-ce que tu vas parler à des négociateurs? Qu'est-ce que les autres ont à nous dire d'important?
Ben là, déjà, en fait, Logbit donc s'est fait pirater il y a quelques jours ou peut-être deux semaines environ. Donc, ça va être assez intéressant parce que tous les chats, je suis allé les chercher. J'ai pas eu le temps de les lire encore, mais je pense que ça va ajouter un des gros opérateurs, justement. Je pense que ça va ajouter encore plus, en fait, de cas. Puis on verra s'il n'y a pas des nouvelles tendances ou des nouvelles choses qui ressortent de tout ça. Donc, il y aura peut-être mon talk part 2 pour présenter ça dans une prochaine conférence. J'espère que même si, tu sais, on parle beaucoup dans les conférences, ransomware, AI, c'est probablement les deux buzzwords, là. Et au moins dans mon talk, il y avait juste un des deux. C'est déjà mieux que plusieurs autres. Mais je pense que c'est quand même important, autant qu'on s'intéresse au AI, ransomware, ça reste pour moi une menace. Puis on le voit en ce moment à ce qui se passe au UK avec des détaillants qui ne sont pas capables d'opérer depuis 2 ou 3 semaines. Je pense que c'est un blip dans une longue histoire, mais il reste que pour cette année, je pense qu'il y a quelques cheveux gris qui vont pousser et de savoir quand est-ce qu'on revient en ligne, quand est-ce qu'on peut revenir à la vie normale. J'en vis pas les gens qui ont à gérer ça en ce moment là-bas. Là.
Non, ça doit être assez tough. Je te remercie énormément de ce partage-là. Puis de toute façon, puis j'encourage énormément la recherche. Puis j'ai hâte d'avoir justement la suite parce que là, on va avoir justement, comme tu mentionnes, avec Logbit qui vient ajouter au corpus de connaissances que tu vas avoir dans les mains, amener un regard peut-être plus précis, plus raffiné de ça. Et peut-être faire du quanti, peut-être avoir assez de données pour faire du quanti éventuellement.
On verra, on espère bien. Donc, merci pour l'invitation, toujours un plaisir. Puis à la prochaine.
Merci à toi.